Europe 1. Europe 1. On te la raconte.
Cette histoire débute un soir de septembre 1879 dans le 18e arrondissement de Paris, tout près de la porte de la Chapelle. Et dans ces années-là, c'est pas Versailles, le quartier de la Chapelle. Surtout à 8h du soir. Les rues ne sont pas éclairées, elles sont pavées coussi-coussa, avec tout plein d'ornières, il n'y a que des miséreux ici. Que des miséreux. Ce soir-là de septembre 1879, rue de la Chapelle, au 163, une veuve, Madame Thierry, prend le frais devant sa porte. Et elle est intriguée par le manège d'un homme dans l'impasse du Prémaudit, juste devant elle. Un grand, bien bâti. Il est là, dans la rue, penché sur le caniveau, en train de fourrer quelque chose, un petit paquet, à travers la grille d'égout. Il donne des coups de pied, manifestement ça ne rentre pas. La veuve Thierry, qui s'ennuie un peu dans la vie et qui aime bien s'occuper des histoires des autres, le regarde de loin, intriguée. Elle note qu'il a une casquette de soie et une blouse de conducteur de bestiaux. Et quand il s'en va, elle décide de le suivre, de loin, discrètement. Et elle le suit jusqu'à la porte de la chapelle où elle le perd dans la circulation du boulevard Ney. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ce petit paquet ? Quand elle rentre chez elle, bien sûr, Madame Thierry va jeter un œil. Et le petit paquet est effectivement coincé dans la grille. Elle ouvre le paquet. Dedans, il y a un morceau de viande. Et pas de la viande avariée, verdâtre. Non, de la viande fraîche, bien rouge. Coupée récemment, c'est sûr. Madame Thierry, bonne citoyenne, avise un agent en patrouille. Et elle lui raconte son histoire. Et comme la boucherie du dénommé Debout est encore ouverte, le policier et la veuve Thierry vont lui montrer la trouvaille, pour avoir son avis. Ben, c'est pas de l'agneau, hein. C'est pas du bœuf. Ni du porc. C'est pas du cheval non plus. Je peux pas vous dire. En tout cas, c'est bien découpé, hein. Un peu plus loin, le pharmacien Le Gastelois est encore dans son officine. « Docteur, est-ce que vous auriez une idée de ce que c'est, cette viande ?»« Mais c'est de la chair humaine. C'est un morceau de bras, pour être précis. Oui, c'est un morceau de bras. Je peux vous dire que celui qui l'a découpé, c'est s'y faire. Chirurgien, boucher peut-être. Un gars du métier, j'en suis formel. » De la viande humaine ? Mais alors c'est un meurtre. L'agent de police conduit immédiatement la veuve Thierry au commissariat. Et le morceau de viande aussi, bien sûr. Quoique depuis qu'il sait, ça le gêne un peu d'avoir ça dans la main. Arrivé au commissariat du 18e, il assoit la veuve en face du commissaire Adolphe Lefébure et pose la viande sur le bureau, bien content de s'en débarrasser. Le commissaire pose la chose sur un drap blanc et il commence par lui coller une étiquette. Comme c'est la règle. Et il rédige une dépêche à l'intention du préfet de police. Je lis. La partie d'un bras, comprise entre le coude et l'épaule, a été jetée par un inconnu dans la bouche d'un égout situé rue du Prémaudit. Retirée aussitôt et déposée au bureau de Monsieur Lefébure, commissaire de police. Il est 11h du soir, quand le commissaire expédie sa dépêche. Une heure plus tard, il voit débouler le chef de la sûreté parisienne en personne, le commissaire Gustave Massé. Et il ordonne que tous les agents présents se déploient sur le terrain. Il faut trouver le reste du cadavre. Et chaque policier part en maraude avec la description du suspect, grand, vêtu comme un maquignon, avec une casquette et une blouse. Quand les policiers du commissariat du 18e s'enfoncent dans le quartier, il est déjà minuit. Il s'approche de la porte de la chapelle et il pénètre dans la zone. Le terme est d'époque, figurez-vous. La zone, un bidonville, en vérité, tout autour de la porte de la chapelle. À cette heure-là, il n'y a plus guère de café ouvert. En revanche, il y a des filles, et c'est pas les plus jolies, qui font de la retape dans les ruelles. Mais ce qui frappe le plus quand on entre dans cette zone, à cette époque, c'est l'odeur. L'odeur putride des abattoirs de la Villette, portée par le vent du soir. Et voilà que les policiers, en pleine nuit, se mettent à fouiller les égouts et à remuer les tas d'ordures. Et on voit des rats détalés sans demander leur reste. Et rue de l'Évangile, il y en a un qui s'écrie
« Hé, je crois que j'ai une omoplate !»
Au même moment, rue des Fillettes, un autre policier trouve un morceau de jambe. Et au fil de la nuit, d'autres morceaux qui finissent côte à côte sur un drap blanc dans le bureau du commissaire Lefébure. Dans la foulée, un homme est arrêté, un chiffonnier qui, dans sa besace, a un morceau du cadavre.
« Eh ben quoi? Vous allez pas me piquer ma trouvaille? J'en mange jamais, moi, de la bonne barbaque saignante. Savez-vous, imbécile, d'où vient cette viande? C'est de l'homme. Il y a un fou qui sème tout ça dans le quartier. Gardien, confisquez cette trouvaille et faites-le sortir, il en peste !»
Le lendemain matin à l'aube, sur la table de la morgue de l'île de la Cité, le médecin légiste se retrouve face à un puzzle de 77 pièces. Et d'entrée, avisant une paire de testicules, il s'écrie
« Ah ! Mais je crois que nous avons là un beau garçon !»
Au final, quand il a tout remis dans l'ordre, il ne manque que la main gauche et la tête.
Remarquable ! La précision de ce découpage est digne d'un chirurgien et d'un bon, je peux vous le dire.
Le soir même, l'affaire est dans le journal. Un homme en 77 morceaux, ça intéresse, forcément. Et comme toujours, les policiers se font traiter d'incapables et de corrompus. Du coup, le commissaire Massé se fait souffler dans les branches par le préfet.
« Il faut me résoudre cette affaire, Massé. Et vite, je compte sur vous. »
Et dans la foulée, le commissaire Massé va souffler dans les branches du commissaire Lefébure.
« Il faut me résoudre cette affaire, Lefébure. Et vite, je compte sur vous. »
Mais pour avancer, le commissaire Lefébure n'a pas grand-chose, à part le témoignage de la veuve Thierry. Elle l'a vu. Et ça tombe bien, parce qu'avec du recul, elle pense qu'elle l'a reconnu.
Vous savez quoi, monsieur le commissaire? Il m'a rappelé le bel homme.
Le bel homme? Mais quel bel homme?
Un agent, monsieur le commissaire. Un policier du quartier. Un grand fort. Avec une belle moustache, vous voyez? Le bel homme. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il a été mon voisin il y a 2 ans, rue des Roses. Je le connais bien.
Le Fébure se gratte la tête. Il le connaît bien sûr, c'est un de ces hommes, le gardien de la paix Victor Prévost, bâti comme une armoire, 1m83 et la force d'un lutteur de foire. Le commissaire au début fait mine d'avoir compris que le bel homme ressemble au tueur. Mais la veuve Thierry insiste, ça n'est pas ça qu'elle a voulu dire, elle a voulu dire que c'était lui, le bel homme, c'est lui qu'elle a vu. Alors le commissaire le fait appeler. Un policier accusé d'avoir découpé un homme en morceaux. Le commissaire Lefébure est très embêté, bien sûr. Alors il fait venir le chef de Prévost.
Dites, vous qui êtes son chef direct, Prévost, vous en pensez quoi?
Eh, j'en pense que j'étais bien embarrassé avec lui. Partout où je le mettais, les boutiquières s'enflammaient à son passage. J'étais obligé de le changer d'endroit, je l'ai mis comme planton au square de la chapelle, il a mis la tête des bonnes du quartier à l'envers. Alors j'ai fini par le mettre dans le chantier de la gare du Nord. Là-bas, il y avait que des hommes.
Donc ce Prévost tourne la tête des femmes. Mais ça n'en fait pas un tueur.
Il faut dire que c'est un gaillard, 1m83 en 1879, c'est un géant. Dans ces années-là, un homme normal mesure dans les 1m65. Et lui, presque 20 cm de plus. Et costaud avec ça, Prévost doit bien peser dans les 100 kilos. Et rien que du muscle. Et avec sa belle moustache, parfaitement entretenue. Et puis, l'uniforme. Ah, l'uniforme. Ça plaît, l'uniforme. C'est pour ça que tout le quartier de la Chapelle l'appelle le bel homme. Avant de l'interroger, le commissaire s'est fait porter son dossier. Et c'est comme ça qu'il apprend que Victor Prévost a fait partie de la garde rapprochée de Napoléon III. Oui, monsieur, il était l'un des 100 gardes, comme on les appelait, recrutés parce qu'ils étaient grands, forts et beaux. Ça lui a valu la médaille d'Italie. Ça n'est pas rien. Ça force le respect, un ancien des 100 gardes. Et à la fin du Second Empire, il est devenu policier. Ça fait 10 ans qu'il est gardien de la paix, en képi, baïonnette au côté et bottes noires en hiver. Et son dossier est bon. Sur le papier, c'est un bon policier. Le commissaire, toujours prudent, surtout depuis qu'il sait que c'est un ancien des 100 gardes, interroge un de ses collègues, son binôme. « Comment vous le trouvez, vous, votre camarade ?»« Ben, il est un peu simple, pas très futé. » Mais il est courageux, hein, et fort comme un bœuf. D'ailleurs, en parlant de ça, il a tout le temps faim. Ça lui arrive de piquer de la viande à la cantine. Remarquez, c'est normal qu'il aime la viande, hein. C'est un ancien boucher. Pardon? Ben oui, avant de rentrer à l'armée, il a été apprenti boucher. Il paraît qu'il se débrouillait bien. Un ancien boucher? Pour le coup, le commissaire Lefébure est secoué. Et il l'envoie chercher Dardard à la gare du Nord. Et fait venir la veuve Thierry. Et Victor Prévost, en grand uniforme, la moustache impeccablement retroussée, entre dans le bureau du commissaire. « Vous m'avez fait demander, monsieur le commissaire ?» Et là, la veuve Thierry se dresse d'un trait. « C'est lui ! C'est lui, je le reconnais ! C'est lui, l'assassin !» Puis elle s'évanouit. Le commissaire n'apprécie pas trop ce théâtre dans son bureau. Et il fait évacuer la veuve Thierry et débute l'interrogatoire de Prévost. Prévost, vous êtes au courant de la macabre découverte de cette nuit ? Oh bien sûr, on parle que de ça. Quelle horreur ! La dame Thierry dit qu'elle vous a vu jeter dans l'égout de la rue du Pré-Maudit un morceau de bras humain. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi ? Cette bonne blague ? Elle est formelle. Mais comment pourrait-on m'avoir vu à la passe du Pré-Maudit ? Je sais même pas où ça se trouve. Ah ? Oui ? Vous ne savez pas où ça se trouve. Premier mensonge. Vous connaissez l'endroit. Vous y avez arrêté vous-même des malfaiteurs l'année dernière. C'est écrit dans votre dossier. Alors Prévost, que faisiez-vous hier soir? Et là, Victor Prévost se trouble. Il hésite. Ben, j'étais chez moi. Je me sentais pas bien. On vérifiera. Le commissaire envoie tout de suite ses hommes vérifier auprès de ses collègues. « Vous me mentez encore. Hier soir, un de vos camarades vous a croisé à 21h, vêtu d'une blouse et d'une casquette. Vous portiez un panier recouvert d'une toile et vous lui avez dit que vous veniez aider un ami à déménager. »« Oh, mais il se trompe !»« Allons, Prévost. Avouez. Tout vous accable. Faites honneur à votre uniforme. Où avez-vous mis la tête de votre victime ?» Et là, en quelques secondes, Victor Prévost n'est plus le bel homme. C'est un pantin qui s'écroule. À la tête. Elle est chez moi. Elle est dans un chaudron. Et il passe aux aveux. Et il n'oublie aucun détail. «
s'appelait Alexandre le Noble. C'était un bijoutier. Je le connaissais, il vendait aux fonctionnaires des montres en or, à crédit. Je lui ai fait croire que je voulais lui acheter une chaîne en or, payable en acompte. Et puis on a pris rendez-vous. Et hier à midi, il était dans ma chambre, riquet au 75. Il a étalé ses machines sur mon lit et je l'ai assommé, quoi. Avec une boule de tender.
Une boule de tender. Tiens, curieux instrument pour un crime. C'est une masse de 2 kilos qui sert à attacher les wagons de chemin de fer entre eux.
J'en ai trouvé une à la gare du Nord. J'avais vu un cheminot se battre avec, ça m'a donné l'idée.
Et combien de coups avez-vous donné ?
J'ai donné un premier coup, vigoureux, à deux mains. Ça l'a sonné. Le second coup lui a défoncé le crâne. Il n'y avait pas besoin du troisième, hein.
Et ensuite, vous l'avez dépecé ?
Ouais, c'est ça. J'ai d'abord ouvert la gorge pour recevoir le sang. Ça sortait en glouglou. Et puis je l'ai déshabillé. Et je l'ai écorché. Entièrement. À 1 heure, j'ai commencé. À 6 heures, j'avais fini.
Et la tête ? Quand comptiez-vous vous débarrasser de la tête ?
Bah, je comptais la faire bouillir en rentrant ce soir. Et puis, je l'aurais disséqué. Et j'aurais balancé les morceaux.
Victor Prévost, le bel homme, vient d'avouer l'horrible crime de la porte de la chapelle. Mais il réserve à ses collègues policiers d'autres surprises. Et un second assassinat. Prévost a dit que la tête de sa victime était chez lui, dans un chaudron. Alors le commissaire Lefébure va immédiatement sur place, au 75 rue Riquet. Et il trouve la tête dans un chaudron, effectivement, sous son lit. Et l'enquête révèle que Prévost avait prévu son crime. La veille, en patrouille avec un collègue, il lui a dit
« Quelle différence tu ferais entre couper le cadavre d'un homme et d'un animal ?»« Oh, Prévost, tu rigoles, c'est pas pareil !»« Ah, possible ? Mais si je tuais quelqu'un, supposition, n'est-ce pas ?» Eh bien, je le dépouillerai comme un veau, je lui couperai les oreilles, je lui arracherai les yeux et je le taillerai en morceaux. Et alors, mon vieux, ni vu ni connu.
Et il a fait comme il a dit. Quant au mobile, il semble que ce soit sa passion pour les montres en or. L'enquête révèle la fascination de Victor Prévost pour les montres en or. Il est capable de demander l'heure à un passant juste pour admirer sa montre. Et l'affaire, bien sûr, fait les gros titres des journaux. Le boucher de la porte de la chapelle était un sergent de ville. La police n'est pas seulement corrompue, elle est criminelle. Et ce sont les journaux qui révèlent que le soir du crime, juste après avoir dépecé sa victime, Prévost est allé dîner d'une tête de veau. Du côté de l'institution, on est un peu assommé. Un serviteur au passé irréprochable, décoré de la médaille d'Italie, qui découpe un cadavre en 77 morceaux, c'est inconcevable. Et d'ailleurs, le préfet Andrieux réagit tout de suite. Par arrêté numéro 1424, nous révoquons le gardien de la paix Prévost Victor Joseph du 18e arrondissement, arrêté ce matin sous l'inculpation d'assassinat. Ainsi, quand Prévost se présentera aux assises, il ne sera plus policier. Et gare aux journaux qui parleront du gardien Prévost. Il les prévient, il les fera saisir. Bon prince, le préfet ordonne que la préfecture de police prenne en charge les obsèques de la victime. Et il fait verser à la veuve du bijoutier un pécule de 2000 francs. Le prix du sang, disent les journaux, qui, vous l'avez compris, à cette époque-là, n'aiment pas beaucoup les policiers. À partir de là, l'enquête prend un nouveau tournant.
le chef de la sûreté, le commissaire Gustave Massé, fait ressortir tous les dossiers de meurtres inexpliqués. Il ne s'agirait pas que Prévost soit un tueur en série. Et il s'aperçoit que 3 ans plus tôt, une maîtresse de Prévost, Adèle Blondin, a disparu. Et qu'à l'époque, l'enquête a été légèrement bâclée. Cette Adèle Blondin a été vue pour la dernière fois le 27 février 1876 et évidemment, Prévost a été interrogée à l'époque.
Oui, elle est venue chez moi. Comme je refusais de l'épouser, elle est partie furieuse. Je l'ai jamais revue. On lui avait demandé ce qu'elle était devenue, à son avis. Il avait répondu « Oh, c'est une fantasque. Elle s'est sentie humiliée, c'est tout. Dans ces cas-là, elle part en voyage. Elle a déjà fait le coup. »
Et voilà. Affaire classée, on n'est pas allé plus loin à l'époque. Mais maintenant, on ressort le dossier et on s'aperçoit que Prévost a vendu les bijoux de la dame au Mont-de-Piété et ses vêtements aussi, et que se trouvant soudain plus riche, il a déménagé quelques jours après la disparition d'Adèle. Il faut maintenant lui faire avouer ce crime aussi.
Allons, Prévost, cette Adèle est allée chez vous, et ensuite personne ne l'a revue. C'est pas moi. Ce crime-là, vous me le collerez pas sur le dos.
Qu'à cela ne tienne, le commissaire amène Prévost au 22 rue de l'Évangile, où on a vu Adèle Blondin pour la dernière fois. C'est là, dans cette chambre meublée minable, qu'il habitait à l'époque. Et sur le sol, il reste des traces de sang.
Alors Prévost, la mémoire vous revient? Puisque je vous dis que c'est pas moi qui ai tué Adèle. Elle a foutu le camp, c'est tout.
Et les bijoux que vous avez vendus? Et les vêtements?
Elle me les avait donnés. C'était des cadeaux, en souvenir.
Monsieur Prévost, j'en appelle à votre sens de l'honneur. Vous étiez un estimable représentant de la police. Un gardien de la paix ne doit pas mentir. Ce serait déshonorer l'uniforme.
Et là, Prévost se prend la tête dans les mains et il fond en larmes.
Oui, je l'ai tué. Mais j'ai si honte. Je l'ai étranglée d'abord, avec mes deux mains. Elle était étendue, elle était ivre, sur ce lit.
Pourquoi?
Je voulais m'en débarrasser. C'était un crampon. J'avais d'autres idées. Elle me gênait. Et ensuite, je l'ai découpée comme l'autre. J'ai jeté les morceaux dans les égouts. Et la tête, je l'ai fracassée. Vous la trouverez aux fortifications, où elle est enterrée. Près du bureau de l'Octroi.
Et quelques heures plus tard, la tête d'Adèle Blondin est exhumée près du chemin de fer de la Petite Ceinture, boulevard Ney.
Est-ce tout? Demande le commissaire.
A priori, oui. Les policiers de la sûreté serait bien tenté de lui coller un autre assassinat. Une galante espagnole disparue lorsqu'il était militaire de la garde de Napoléon III. Mais ça ne donne rien.
De toute façon, le ministre de la Justice s'impatiente. Il veut le traîner au plus vite devant les assises et le condamner dardard et l'exécuter dans la foulée. L'humiliation a assez duré. D'autant plus que le bel homme, depuis qu'il est en prison, reçoit des dizaines de lettres enflammées de femmes. Certaines lui envoient des poèmes et d'autres de quoi manger et d'autres encore des fleurs. En prison, cette pantalonnade doit s'arrêter.
On fait écrire une dernière déclaration à Prévost. J'ai bien du remords pour les deux crimes que j'ai commis. Je jure que si j'en avais fait d'autres, je les avouerais. Et on le renvoie devant la cour d'assises de Paris pour un procès pour le moins expéditif, qui commence un matin de décembre 1879 et se termine le soir même. Les jurés, après avoir délibéré 20 minutes, le reconnaissent coupable d'assassinat avec préméditation et le condamnent à mort. Son avocat a bien tenté de plaider la folie, une personnalité frustre, une conversation limitée. Il a rappelé que le butin de l'assassinat du bijoutier était dérisoire, que le meurtre d'Adèle Blondin n'était pas prémédité. C'est l'avocat général qui a emporté le morceau. Les forfaits commis et reconnus par l'accusé compromettent d'autant plus la sécurité qu'ils ont été exécutés par l'un de ses défenseurs, dépositaire de l'autorité. Prévost demande la grâce du président de la République, mais sans surprise, le président Jules Grévy la rejette. Victor Prévost attend son exécution à la prison de la Roquette. Pour l'occasion, le préfet a réquisitionné 50 gardes républicains à cheval et 100 gardes à pied. C'est qu'il craint des incidents au moment où tombera la guillotine. Car on attend beaucoup de monde. Prévost est réveillé à 3h du matin. Il dit une dernière fois « J'ai pas commis d'autre crime, je vous le jure !» Et il ajoute « Je demande pardon pour cette malheureuse administration que j'ai tant compromise !» Et la lame tombe, 4 mois après son dernier crime. Victor Prévost est mort. Et son corps, ironie de l'histoire, échoue à l'Académie de médecine pour les bienfaits de la science. Il sera disséqué à son tour. Cette histoire est désormais disponible en podcast et j'attends vos commentaires sur Twitter @ondelatraconte.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.